RFI, bonjour, 17h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris, 19h à Jérusalem et Gaza.
Nicolas Brousse.
H-13 avant l'entrée en vigueur de la trêve négociée entre le Hamas et Israël. Les combats devraient enfin s'arrêter après 15 mois. Des otages israéliens seront échangés contre des prisonniers palestiniens. Demain, c'est la première des trois phases qui commence. Reste à savoir si l'accord pourra être appliqué dans son intégralité. Demain également, le réseau social TikTok disparaîtra des écrans américains. 170 millions d'utilisateurs perdront l'accès à ce réseau chinois accusé de poser des problèmes de sécurité nationale aux États-Unis. Problème qui pèse plus dans la balance de la Cour suprême que l'importance de ce mode d'expression. En Argentine, le controversé président pavoise pour la première fois en 14 ans. Les comptes de son pays ont terminé l'année 2024 positif. Revers de la médaille et de taille, les coupes ont été drastiques. C'est donc le compte à rebours avant l'entrée en vigueur ce dimanche de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, un accord qui doit mettre un terme à 15 mois de guerre. La première phase de 42 jours doit permettre au moins à 33 otages israéliens de retrouver la liberté ainsi que 737 détenus palestiniens. Un processus à risque dont rien ne garantit encore le succès. C'est ce qu'explique Daniel Scheck, ancien diplomate, ancien ambassadeur israélien en France. Il est aujourd'hui l'un des représentants des familles des otages en Israël.
Le challenge, c'est de s'assurer que cet accord aille jusqu'au bout. C'est-à-dire trois phases, 98 otages, jusqu'au 98e qui sera une dépouille, parce que la dernière phase, ce sont les dépouilles des otages qui sont morts, et l'arrêt des hostilités, le retrait des soldats israéliens, etc. Et il y a une véritable crainte chez beaucoup de familles que, soit du côté israélien, soit du côté Hamas, soit des deux, il y ait des raisons ou des situations qui vont faire en sorte qu'on va s'arrêter après la première phase et que la deuxième et la troisième phase ne soient pas mises en œuvre. Et il y a une véritable volonté de mobiliser pour que cet accord aille jusqu'au bout.
Propos tenus au micro de Nicolas Falaise, notre envoyé spécial à Tel Aviv. Entrée en vigueur de la trêve dès 6h30 TU, l'Égypte annonce que 600 camions, dont 50 chargés de carburant, devraient pouvoir ensuite entrer quotidiennement dans la bande de Gaza. Des centaines d'entre eux sont pour l'instant bloqués côté égyptien du poste frontière fermé de Rafah. L'Égypte qui annonce également que ce sont en fait 1890 prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés par Israël dans la première phase de l'accord. En attendant, les frappes se sont poursuivies sur Gaza et l'armée israélienne a intercepté aujourd'hui un missile tiré du Yémen. Par ailleurs, en plein centre de Tel Aviv, un homme a blessé au couteau un passant. L'assaillant a été neutralisé selon les termes de la police qui le qualifie de terroriste. On ne connaît pas encore les motivations de l'auteur. Quoi qu'il en soit, c'est un cas très rare en Iran. Un employé de la Cour suprême a tué deux juges de cette institution dans leur bureau de Téhéran, puis il s'est suicidé. Les détails avec à Téhéran, Siavosh Ghazi.
Il s'agit de deux des juges les plus importants et influents de la Cour suprême, Ali Razini et Mohamed Morisset, qui ont été tués sur leur lieu de travail par un homme armé qui s'est ensuite suicidé. Selon les médias iraniens, l'assaillant, un employé de la Cour suprême, a utilisé une arme de guerre et faisait partie des employés de la Cour, un endroit ultra protégé. Les deux hommes ont jugé depuis de nombreuses années des dossiers importants, notamment liés à la sécurité nationale, au terrorisme et à l'espionnage. La Cour suprême est chargée notamment de confirmer les peines de mort, notamment des opposants, comme cela a été le cas ces dernières semaines, pour plusieurs opposants, notamment deux femmes activistes kurdes. Mohamed Morisset, âgé de 68 ans, était sur la liste des sanctions américaines depuis plusieurs années. De son côté, Ali Razini, âgé de 71 ans, a occupé des postes importants au sein du système judiciaire, mais aussi politique de l'Iran. Il a notamment joué un rôle très important dans les dossiers des membres des Moudjahidines du peuple, principal groupe d'opposition armée depuis le début de la révolution islamique de 1979. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Pas de cessez-le-feu à l'horizon pour l'Ukraine. Trois personnes tuées dans une attaque russe à Kiev, annonce ce samedi du président ukrainien. Une frappe avec des missiles balistiques qualifiés d'odieuses par Volodymyr Zelensky et de représailles par Moscou. Au Nigeria, au moins 60 morts, peut-être 70 selon le dernier bilan, et des blessés ce samedi dans le nord du pays après l'explosion d'un camion-citerne qui s'est renversé sur la route. Les victimes cherchaient à récupérer le pétrole déversé. Ça n'est pas la première fois que le Nigeria est endeuillé par ce genre de tragédie. Une l'autre avait fait 147 morts en octobre dernier. Le dialogue avec le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Les mots sont prononcés aujourd'hui par le président RD congolais Félix Tshisekedi qui s'adressait aux diplomates accrédités à Kinshasa. Il explique que cette condition d'un dialogue direct avec le groupe armé posé par la délégation rwandaise qui soutient le M23 est l'une des raisons ayant conduit à l'annulation du sommet de Luanda à la mi-décembre dernier. Afrique Soir première édition à 18h30 temps universel. C'est l'un des réseaux, sinon le réseau le plus populaire auprès des jeunes, y compris américains. Pourtant, en avril dernier, le Congrès adoptait une loi contre TikTok afin d'empêcher les autorités chinoises d'accéder aux données des 170 millions d'utilisateurs américains. La décision a été confirmée par la Cour suprême hier. Charlotte Cossé, est-ce que c'est vraiment la fin de la story pour TikTok aux États-Unis ?
TikTok pourrait trouver une porte de sortie si le gouvernement de Biden faisait un geste pour l'application chinoise. Peu probable, le porte-parole de la Maison-Blanche a déjà déclaré que l'application de cette loi revient au prochain gouvernement. L'autre possibilité serait que le groupe chinois accepte de vendre sa filiale à une entreprise américaine. Quant à la position de Donald Trump sur le sujet, il aurait évoqué la question avec le président chinois lors d'une conversation téléphonique hier. Le patron de TikTok, Xu Shu, fait également partie des invités d'honneur à sa cérémonie d'investiture de lundi. Si cette décision est bien appliquée dès ce dimanche, TikTok prévient qu'elle serait certainement contrainte à afficher écran noir. D'autres acteurs sont moins catégoriques, estimant que la loi prévoit l'interdiction de nouveaux téléchargements et les mises à jour, ce qui permettrait cependant aux usagers actuels de poursuivre leurs activités sur TikTok pendant encore un certain temps.
Charlotte Cossé, lui, s'en est réjoui sur X, le réseau d'Elon Musk, qui n'est donc pas du tout menacé de fermeture aux États-Unis, vous l'aurez compris. Les promesses sont tenues, le déficit zéro est une réalité, message posté par le président argentin ultralibéral Javier Milei. Pour la première fois depuis 14 ans, les comptes publics ont terminé dans le vert, excédent budgétaire de 0,3% du PIB fin 2024. Un an auparavant, le pays a enregistré un déficit budgétaire de 4,4%. Mais Sarah Yasmin Ziani, vous avez épluché les comptes et ce résultat a un prix, celui de coupes drastiques dans les dépenses publiques.
Il avait promis d'y aller à la tronçonneuse. À la tête de l'Argentine depuis un an et demi, Javier Milei reste fidèle à son projet d'austérité budgétaire. D'abord, avec une politique sévère de suppression d'emplois, 250 000 postes perdus en un an. Celui qui se définit comme un anarcho-capitaliste a aussi réduit les subventions liées au transport, à l'énergie ou aux chantiers publics. Politique d'austérité ensuite en dévaluant de moitié le peso, la monnaie argentine, pour stabiliser l'économie. Une inflation ainsi divisée par deux, mais elle reste l'une des plus élevées au monde. Le pays est toujours en proie à une misère importante. Plus de la moitié des Argentins étaient pauvres début 2024. Conséquence, une chute de la consommation des ménages et une économie en repli. Le gouvernement veut donc redynamiser son activité. Objectif 5% de croissance cette année, ce que prévoit le Fonds monétaire international. Javier Milei négocie d'ailleurs avec le FMI pour renouveler son plan d'aide économique. Le dernier prêt de 44 milliards de dollars a expiré fin 2024.
Précision en direct de Sarah Yasmin Ziani sur RFI. Outre le fait d'avoir un bien joli prénom, il est l'auteur de succès incontournables des années 70 et 80, comme So Far Away From LA et Mon Père. Le chanteur Nicolas Perrac se produit demain à Paris à l'Européen. Spectacle intitulé Les coulisses, les acoustiques improvisées. Il est seul sur scène avec sa guitare. Edmond Sadaka les a rencontrés.
C'est en 1975 que la carrière de Nicolas Perrac a explosé avec cette chanson qui a beaucoup marqué les esprits.
So far away from LA, so far ago from Frisco.
So far away, c'est ma main droite et ma main gauche. C'est cette chanson qui a déterminé le cap. J'ai mis un an à faire le refrain. Quand je la fais en ce moment, guitare-voix, elle a pas pris une ride.
Avec 23 albums à son actif, Nicolas Perrac, 75 ans aujourd'hui, a publié l'an dernier D'ici ou d'ailleurs, un album de 22 titres où il a invité notamment les acteurs François Berléand et François Morel. Sur scène, à l'Européen, il se produira accompagné de sa seule guitare, formule qui lui permet de passer en revue aussi bien les chansons nouvelles que celles des tout début.
Quand on est tout seul avec une guitare, il n'y a rien qui date une chanson. Parce que qu'est-ce qui date une chanson ? C'est l'arrangement, c'est le son. Donc on peut faire un panaché de chansons anciennes et récentes.
Il y a un peu plus de deux ans, Nicolas Perrac a publié son quatrième roman intitulé « Sans oublier qu'un jour on s'est aimé », l'histoire d'un amour d'été caché, des hasards de la vie qui font que deux êtres vont finir par se retrouver.
Edmond Sadaka pour Nicolas Perrac en concert. Donc demain, son dernier album est sorti l'an dernier.